Chers auditeurs et chères auditrices, nous continuons la série Jésus-Christ, la lumière, jusqu'au retour de Jésus-Christ, le Messie. Nous arrivons à l'étude numéro 20. Et le témoignage, c'est un témoignage hors du commun du docteur Landry concernant l'au-delà. Un soir, en rentrant à la maison, je dis à Denise, c'est décidé, on va à la maison et on part dans le désert. Une nouvelle fois, toute la famille déménagea et nous nous sommes installés dans une très belle région désertique de l'État du New Mexico, loin du bruit des grandes villes. Là, je suis devenu l'associé dans une clinique de pratique générale de médecine. L'un d'eux faisait quelques interventions chirurgicales et je lui servais d'anesthésiste. Nous avons acheté une très belle maison avec piscine, j'avais un bon salaire et nos enfants grandissaient et prospéraient. Comme dans le passé, j'exerçais la profession que j'aimais. Très vite, je suis devenu un homme important et connu, au point que le gouvernement de l'État me sollicita pour devenir membre du conseil de tous les hôpitaux et institutions médicales de l'État, conseil responsable de budget s'élevant à 25 millions de dollars par année. Plusieurs fois par mois, on me payait un avion avec pilote pour me permettre de me rendre à des comités en plus de mon travail à l'hôpital. J'avais fait quelques économies et pensais de m'assurer une bonne retraite avec un bon compte en banque qui me rapportait quelques intérêts, mais c'était insuffisant pour le train de vie que je désirais mener. J'ai donc décidé de me lancer dans l'immobilier. Je me suis associé avec un architecte en vue de la réalisation d'un complexe immobilier avec les appartements les plus luxueux de la région. Vu mes relations et ma position sociale, la banque n'a pas hésité à m'accorder un prêt d'un quart de million de dollars. Le complexe terminé, il y a eu une grande journée d'inauguration avec des personnalités de la ville et monsieur le maire venu pour couper le ruban. Ce fut une journée de fête magnifique, la plus grande réussite du docteur Landry. Cette fête avait été un point culminant dans ma vie, mais lorsque elle fut terminée, je me suis demandé « et après ?» J'étais un peu déçu, tout cela avait duré une journée et voilà que tout était déjà fini. Je cherchais le bonheur et pensais le trouver en gagnant de l'argent, et cela dans le travail et le succès, dans une bonne position sociale et les loisirs, mais toutes ces choses réunies ne me procuraient aucune satisfaction profonde et véritable. Un médecin avait bâti un nouveau complexe médical dans lequel je me suis installé, dans un très beau bureau climatisé. Tous mes diplômes, j'en avais beaucoup, et des titres suspendus au mur, on peut dire une vingtaine au total. Et si ça continue, pensais-je, il faudra peut-être ajouter des murs. Quel orgueil! J'étais parvenu à l'apogée de ma carrière, mais physiquement et moralement, je me trouvais dans un désert. On écrivait l'an de grâce 1972. J'avais 48 ans et je me mis à réfléchir sérieusement. Tous les dimanches, nous nous rendions en famille à l'église, mais je n'y trouvais là non plus aucune satisfaction. Il y avait dans ma vie, par ordre de priorité, ma profession, les affaires, les loisirs, ma famille, et puis Dieu une heure par semaine, le dimanche. Et encore, pendant le service dominical, je pensais souvent à toute autre chose, c'est-à-dire à mes affaires et à mon travail. Le directeur de l'hôpital où je travaillais était athée. En été 1977, il me convoqua à une réunion plénière avec les autres médecins. Il nous proposa de voter en faveur d'une interdiction qui serait faite à toute personne autre que pasteur ou curé de venir prier avec les malades. Cette interdiction visait en particulier un couple qui s'appelait Frank et Antoinette MacPherson. Eux venaient régulièrement rendre visite aux malades. Je me suis refusé à voter en faveur de ce règlement car j'avais vu ce jeune couple à l'hôpital prier et lire la Bible et je n'y voyais aucun mal. Une semaine plus tard, on m'appela pour une urgence. Un chauffeur de train routier s'était écroulé à la station d'essence, terrassé par une crise cardiaque. Lorsque je suis arrivé à l'hôpital, il était déjà là depuis une vingtaine de minutes. J'essayais de le réanimer, mais en vain. Sa femme attendait très angoissée. Quand elle apprit la nouvelle, elle s'écroula et nous avons dû l'hospitaliser. Deux jours plus tard, tandis que je faisais ma tournée, j'ai rencontré Franck et Antoinette dans la chambre de cette femme. Je me suis excusé et j'allais me retirer quand ils m'invitèrent à rester et à prier avec eux. Franck prit ma main et se mit à prier. « Seigneur, voici le médecin de cette dame. Je te demande de lui donner de la compassion et de l'amour pour elle qui en a tant besoin après le décès de son cher mari. » À ce moment précis, j'eus une sensation de chaleur dans tout mon cœur et dans tout mon corps et les larmes ont vraiment jailli. Mais je me suis aussitôt repris et avec une certaine froideur, j'ai quitté la chambre, m'éloignant dans le couloir et je me suis reproché de ne pas avoir su garder ma dignité de médecin. Quelque temps plus tard, ce couple a pris contact avec ma femme pour nous inviter à un repas suivi d'un moment de prière. Après quelques hésitations, nous avons accepté l'invitation car cela devait se passer à la campagne chez des gens que nous connaissions. L'accueil fut des plus chaleureux, l'ambiance était empreinte d'amour et de joie. Après le repas, Franck a apporté un message sur les miracles accomplis par Jésus-Christ. Il parlait de Jésus comme étant le grand médecin qui guérit l'âme et le corps. Je dois dire qu'à l'époque, je ne croyais pas du tout aux miracles. Pendant que j'écoutais Franck, je me disais « Comment donc cet homme peut-il savoir tout cela et d'où vient cette connaissance ?» À la fin de la réunion, les responsables du groupe nous ont demandé s'ils pouvaient prier avec nous. C'était vraiment inhabituel. Jamais nous n'avions connu semblable proposition dans notre église. J'étais gêné, mais je me suis dit que cela ne pouvait pas nous faire de mal, et nous avons accepté. Tout un groupe de chrétiens nous a alors entourés et s'est mis à prier en nous imposant les mains. des paroles qui nous étaient adressées personnellement à Denise et à moi, nous apprenait que le Seigneur désirait se servir de nous et qu'il nous avait prédestinés à de grandes choses. Alors nous nous sommes sentis comme régénérés. Antoinette a chanté la fin du psaume 23 et une partie du psaume 119 et son chant nous a émus. Rentrant chez nous, nous étions favorablement impressionnés, mais ne désirions pas trop nous engager puisque ce n'était pas un groupe catholique. Une semaine après cette réunion, nous étions de nouveau invités à une rencontre, celle de la communauté des hommes d'affaires du plein évangile. Un ancien aviateur a témoigné avoir été guéri du cancer de la colonne vertébrale. Il nous présenta une attestation du médecin prouvant que sa guérison était surnaturelle. Dès lors, nous sommes allés à toutes les réunions de ce groupe. C'est par ce moyen que se fit notre cheminement vers une connaissance un peu plus approfondie de Dieu. Un cours biblique suivit dans le cadre du groupe de prière et nous a appris à mieux comprendre les dimensions de l'Esprit-Saint. Et le 14 mai 1974, nous avons confessé nos péchés et nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie. Ce fut le jour de notre conversion. Dès lors, j'ai appris à donner à Jésus-Christ la première place dans ma vie et j'ai prouvé de moins en moins d'intérêt pour les choses de ce monde, comme par exemple le Country Club, que nous fréquentions précédemment dans l'intention de côtoyer des gens de la haute société. Notre maison est devenue un lieu de rencontre et une de nos filles, Joseline, âgée de 15 ans, accepta à son tour Jésus-Christ comme Seigneur de sa vie. Parallèlement, je dus subir des moqueries et des colibets de la part de mes collègues. Désireux de partager avec eux ma foi et mon expérience, je me heurtais à un mur. Le premier à qui j'ai parlé de ce que je vivais fut mon associé, absolument opposé aux choses de Dieu. Parlant avec mes patients, je me rendais compte que les personnes âgées étaient les plus réceptives. La rumeur se mit à circuler que je perdais trop de temps à parler de religion aux malades. Mon associé me mit en garde, me disant que l'on ne tolérerait plus très longtemps cela. Évidemment, ce ne fut pas facile, et je commençais à me sentir persécuté. C'était aussi le moment où nos enfants allaient commencer des études supérieures, et je compris que Dieu nous appelait ailleurs. J'appris d'un médecin au Texas qu'il avait un urgent besoin d'un collègue de ma compétence. Je le contactai par téléphone et il me demanda de venir de suite. Nous nous sommes rencontrés au restaurant. Il était accompagné d'un collègue. Pendant le repas, il nous observait et nous avons eu une intéressante conversation qui n'avait rien de mondain. Tandis que nous nous rendions à l'hôpital, l'un des deux nous demanda « Êtes-vous chrétien, né de nouveau ?» J'ai répondu par l'affirmative, ajoutant que nous étions des chrétiens très engagés, et arrivé sur le parking de l'hôpital et sorti de la voiture, nous nous sommes embrassés comme des frères. Peu après, nous avons quitté le Nouveau-Mexique pour nous établir à Midland, au Texas. J'avais le temps d'approfondir mes connaissances bibliques. Nous fréquentions assidûment toutes les réunions de l'Église et faisions partie d'un groupe de prière. À l'hôpital, tout allait bien et nous formions avec mes deux collègues chrétiens une très bonne équipe. Dans la famille aussi, il y avait des sujets de joie, car deux de nos filles s'étaient converties et avaient reçu le baptême du Saint-Esprit. La seule ombre au tableau était notre fils aîné. Il avait 13 ans et il passait par une période de révolte qui nous causait beaucoup de souffrance. Nous étions donc installés depuis environ 3 semaines lorsque un évangéliste du nom de Johnson est venu avec son épouse passer quelques jours chez nous. Après une soirée passée en prière autour de la table de la cuisine, vers 1h du matin, le Seigneur lui montra qu'il devait m'imposer les mains. Ce faisant, il me dit, « Un jour, tu partageras l'amour de Jésus avec plusieurs de tes collègues médecins et avec le personnel soignant. » Étrange! Comment cela pourrait-il se faire? Car en effet, je pouvais parler de Jésus avec mes malades, mais pas avec mes collègues non chrétiens. Pourtant, je savais que Dieu venait de parler. En 1976, un groupe de jeunes chrétiens, Agapé Force, a passé 7 jours chez nous. Sollicité par ces jeunes qui désiraient m'avoir comme médecin, nous avons fini par rejoindre leur centre à Lindale, à environ 120 km à l'est de Dallas. Je travaillais à l'hôpital Medical Center à Tyler, au service des urgences, tandis que mon temps libre était consacré à Agapé Force, où je servais comme médecin bénévole. Nous étions entrés dans une église très vivante. Lors d'un voyage en Israël avec Arthur Katz, j'éprouvais le désir de retourner dans ce pays pour passer plus de temps sur les lieux où Jésus avait vécu. Je désirais en apprendre davantage sur place en ce qui concerne les prophéties et approfondir mes connaissances bibliques en général. En septembre 1978, je me suis décidé pour une année sabbatique et avec 3 de nos enfants, nous sommes partis pour Israël. Nous séjournions à Kiryat Yarim, dans un couvent, un pèlerinage d'une semaine au couvent Sainte-Catherine au Mont Sinaï. Cela fut pour moi une grande bénédiction. C'est en Israël que j'ai rencontré un pasteur arabe, Joseph Odeh. Le rayonnement de son amour pour Dieu d'abord et aussi pour ses frères arabes et le peuple juif me fit le plus grand bien. Nous avons profité de son hospitalité chaleureuse et avons pu voir comment, dans sa vie quotidienne, le Saint-Esprit agissait avec puissance. Notre amitié dans le Seigneur porterait des fruits plus tard. Nous sommes retournés aux États-Unis au début du mois de mars 1979, car je devais reprendre du service dès le mois d'avril dans un hôpital dont le directeur était chrétien. Le lundi 22 mars, je rencontrai le directeur de centre hospitalier universitaire du Texas, spécialiste dans les maladies pulmonaires. Il me fit remarquer le privilège que j'avais de n'avoir jamais été malade et je me vantais à cette occasion d'avoir grimpé sur le mont Sinaï. C'est une ascension assez éprouvante, surtout pour le cœur, et qui est certainement pas à la portée de tout le monde. Puis, voilà que est venu le 24 mars 1979, date mémorable. La journée était belle, et le soleil brillait de tout son éclat. Je pensais en profiter pour faire beaucoup de bricolage. Après le petit déjeuner, Denise et moi avons eu 1 heure de prière que nous avons terminée par le chant du psaume 23. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Après quoi, je suis allé nettoyer une scie circulaire. Le repas de midi terminé, je suis retourné à mon bricolage et vers 14 heures, j'ai décidé d'aller ramasser un peu de bois. J'en pris une brassée pour aller la déposer près de la cheminée. Je retournai en prendre une autre et au moment où je la déposais, je sentis tout à coup une grande fatigue, le sentiment d'être épuisé. Mais je n'éprouvais aucune douleur et ne compris pas cette soudaine lassitude. J'allais à la chambre à coucher pour m'allonger un peu et me reposer. En me déshabillant, j'éprouvais comme une nausée. Je me couchais et c'est à cet instant qu'une violente douleur m'étreignit comme si un étau enserrait ma poitrine, puis cette douleur se prolongea dans mon bras gauche. Je compris aussitôt ce qui m'arrivait, c'était une crise cardiaque. Et là, j'ai eu peur. J'appelai Denise et nous nous mîmes à prier. Nous nous sommes mis à prier tous les deux et à crier à Dieu, car la douleur était vraiment intense. Un voisin avertit une ambulance qui arriva 20 minutes plus tard. Il était environ 15 heures. La douleur était très forte, mais je sentais en moi la paix de Dieu. Vers 16 heures, nous arrivions à l'un des 4 hôpitaux de la ville, au service des urgences de cardiologie. Sans tarder, on me mit sous perfusion et l'on fit un électrocardiogramme. Denise était debout près de moi, inquiète et priant. Le médecin me montra l'électrocardiogramme qui révélait une occlusion de l'artère inférieure gauche, ce qui empêchait le sang de circuler. Il en résulta une détérioration du muscle cardiaque et un collapsus cardiovasculaire. Tandis que j'écoutais Denise prier, tout à coup, je sentis mon esprit et mon âme se séparer de mon corps. Chers auditeurs et auditrices, la suite de ce CD sera dans le prochain, demain matin, Dieu voulant, numéro 21. Nous arrêtons ici et je voudrais, avant que nous prions ensemble, je voudrais simplement, j'aimerais surtout que je puisse vous transmettre, en effet, de vous transmettre quelques enseignements et quelques encouragements. Ce que Jésus-Christ réclame de l'homme, c'est un amour inconditionnel. Non pas que Dieu veuille être adoré en égoïste pour s'en prévaloir, mais parce que Jésus-Christ sait fort bien que l'homme qui a traversé, ou si vous voulez, qui à travers Jésus-Christ n'aurait pas encore donné tout son amour à Dieu d'abord, il ne peut atteindre les sommets de pureté et de perfection qu'appelle ce qu'il y a de plus haut et de meilleur en lui. Or, cet élan d'amour qui répond à son propre amour pour lui brise ses résistances et purifie son être tout entier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, est-il dit. L'amour que vous témoignez à votre prochain est en réalité ce qui de votre amour pour Christ déborde sur lui, voyez-vous? Accéder dès cette vie à l'éternité, et vous pouvez, car vous êtes héritier de Dieu, ne l'oubliez jamais, et vous êtes cohéritier avec Jésus-Christ de la vie éternelle. Si du moins vous acceptez de souffrir avec lui pour que ensemble vous puissiez être glorifiés, Romains chapitre 8 verset 17, la gloire dont il est ici question est celle d'une nature régénérée et portée à sa perfection spécifique. Cela ne commence à devenir possible pour vous que à partir du moment où vous lui livrez, vraiment, il faut lui livrer votre passé, qui est certainement, comme pour nous tous, rempli d'erreurs et de fautes, pour accepter sans réserve la discipline de l'Esprit Saint que le Seigneur vous apporte. Élevé à la perfection par la souffrance, Hébreux 5, versets 8 et 9, on ne saurait être vraiment son disciple lorsque on se soustrait à la discipline de l'Esprit Saint. Et si vous estimez que la vie est trop courte pour vous permettre de faire tout ce que vous croyez devoir faire, ou pour connaître toutes les victoires que vous croyez être indispensables, souvenez-vous que vous entrez ici-bas déjà ici-bas, dans l'éternité. N'oubliez jamais que le Seigneur Jésus-Christ est votre plus grand amour. Le voici à votre côté. Dans tout ce que vous faites, le Seigneur est là pour surveiller vos pensées, susciter vos impulsions et guider vos pas. Le Seigneur vous fortifie corps, âme et esprit. Il vous relie au monde invisible. Il est l'amour qui irradie de vous. Il tient en main votre destinée. Il vous protège et plaide votre cause. Il pourvoit à vos besoins. Jésus-Christ est votre ami. Attachez-vous donc toujours plus étroitement à Jésus-Christ et en le faisant, vous ne connaîtrez pas seulement au plus haut point les trésors et les joies de son royaume pour vous en délecter, mais aussi et toujours davantage ceux que vous offre la nature, ce don qu'il a fait à une humanité qui lui appartient. Chers amis, nous allons donc maintenant prier ensemble. Confessons la foi chrétienne en répétant dans la communion de l'Église corps de Jésus-Christ ces paroles de l'Écriture sainte. Heureux ceux qui ne pensent pas uniquement aux richesses de ce monde, car le royaume des cieux est à eux. Heureux si ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Béni soit le Seigneur, grâce soit rendue à Dieu, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, notre Seigneur Jésus-Christ, nous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et en fasse en nous ce qui lui est agréable. Car Jésus-Christ, auquel soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et chers amis, à demain matin, Dieu voulant, la suite de cette intéressante étude, tout de même un peu exceptionnelle, il faut bien le dire, comme je vous l'ai dit, n'est-ce pas? C'est le témoignage tout de même d'un médecin, Gérald Landry, qui nous raconte qu'il a été dans l'au-delà. Vous aurez la suite demain matin. Au revoir, chers amis. Que le Seigneur vous bénisse.